Michel, c'est maintenant à toi pour nous parler de cette enquête de la Fondation Gabriel Péri.
Ça marche, oui. Alors bon, 12 minutes pour essayer de vous parler de cette enquête, c'est un petit peu compliqué, je vais quand même essayer de m'y tenir.
Tout le monde nous a dit ça sur tous les sujets, hein.
Oui, non, mais je prétendais pas être original, Michel. Je vais évoquer les résultats, ou quelques-uns des résultats d'une enquête que la Fondation Gabriel Péri a fait réaliser en juin dernier, du 7 au 14 juin très exactement, auprès d'un échantillon de 1504 personnes, enquête dont le terrain, comme on dit, a été confié à l'Institut TNS Sofres. Mais avant d'évoquer quelques-uns des résultats... Plus près du micro. Bon, là ça va bien. Avant donc d'évoquer quelques-uns des résultats de l'enquête, je veux faire quatre remarques à propos de, je dirais, la genèse et les objectifs de l'enquête en question. Première remarque, l'élaboration du questionnaire, assez important, puis maintenant de l'exploitation des réponses recueillies, nous les avons confiées à deux sociologues. Nous les avons placés sous leur direction scientifique, si je puis dire, deux sociologues que beaucoup d'entre vous ici connaissent, puisqu'il s'agit de nos amis Guy Michelin et Michel Simon. C'est important parce qu'ils sont particulièrement rompus depuis plusieurs décennies maintenant à ce genre d'exercice. Ils ont une véritable expertise, un savoir-faire unanimement reconnu. Deuxième remarque, dans l'élaboration du questionnaire, ils se sont efforcés, et je crois avec succès, de rester dans la continuité des travaux de recherche qu'ils mènent, je viens de le dire, depuis le milieu des années 60. En vérité, c'est même en 1966, pour être précis, qu'ils ont débuté avec une première enquête, à l'époque, à l'initiative de la direction du Parti communiste. Et dans l'effort d'interprétation des résultats auxquels ils se sont livrés cet après-midi même au siège de la Fondation, ils ont, comme ils l'ont dit eux-mêmes, porté un premier regard sur les résultats obtenus, un premier regard appuyé sur l'enquête elle-même, sur les enquêtes précédentes qui lui ressemblaient, et aussi qu'ils ont porté à partir de l'étude qu'ils ont faite d'un certain nombre d'enquêtes réalisées par d'autres. Au total, sur la période qui nous intéresse, et je crois que c'est très très important de le signaler, on a 22 enquêtes qui peuvent être valablement interrogées pour parler des évolutions de la société française sur une période de 44 ans, ce qui n'est pas donc tout à fait rien. Troisième remarque. Je viens de parler de continuité. Je précise, car je crois que c'est l'essentiel, qu'il s'agit pour Guy Michelin et Michel Simon d'étudier, et je les cite, les systèmes d'attitude, de représentation et de valeurs qui, associés au comportement politique, permettent d'en interpréter le sens et d'en comprendre les transformations. J'ai parlé tout à l'heure de genèse de l'enquête, et là, ce sont les objectifs que je commence à décliner. Et la présente recherche, celle donc qui a fait l'objet de l'enquête du mois de juin dernier, part de l'interrogation suivante. 3 ans après les scrutins de 2007 et 2 ans après l'octobre noir de 2008, début de la crise, quel changement dans les préoccupations et les inquiétudes des Français, leur vision du monde social, leurs orientations éthiques et culturelles, leur rapport aux politiques. Pour le dire beaucoup plus, de façon plus ramassée et sans doute plus triviale, au fond, quoi de neuf dans la société française sous le double effet du sarkozysme au pouvoir et de la crise ? Quatrième et dernière remarque, la restitution qui a été organisée aujourd'hui à la Fondation n'est vraiment, j'y insiste, qu'une première étape. Et donc le propos que je vais tenir maintenant devant vous est également une première étape. Il y a beaucoup, beaucoup de travail, tant les questions sont nombreuses et importantes, que nous révèle cette cette enquête. J'ajoute que Michel Simon et Guy Michelat vont poursuivre leur travail et qu'il fera l'objet, j'y reviendrai tout à l'heure, d'une publication sans doute relativement dense dont la Fondation assurera la publication dans les semaines ou les mois à venir. Alors, ces quatre remarques étant faites, à ce stade, que nous dit l'enquête? J'ai choisi de retenir, parmi d'autres, parce qu'elles m'ont semblé les plus importantes, j'ai choisi de faire sept observations. Premièrement, l'enquête nous montre un maintien à un niveau élevé du sentiment d'appartenance à une classe sociale, avec une poussée accentuée de l'identification à classe moyenne, tandis que se confirme le déclassement de classe ouvrière. Je ne veux pas vous accabler de chiffres parce que ce n'est pas commode dans ce genre de... Mais je suis obligé d'en donner quelques-uns. Donc là, j'en donne trois courtes séries et qui intéressent la longue période, celle que j'évoquais tout à l'heure, 66-2010. Le sentiment d'appartenir à une classe sociale entre 66 et 2010 varie peu, 61% en 66, 64% en 2010. Mais, en ce qui concerne classe ouvrière, en 1966, 23% des gens interrogés disaient appartenir à la classe ouvrière et c'était la réponse la plus fréquente. En 2010, ils ne sont plus que 6%. Pour classe moyenne, en 1966, 13% des interrogés avaient le sentiment d'y appartenir. En 2010, 38%. Et c'est la réponse la plus fréquente. Alors, de telles évolutions, et peut-être en vérité il faut parler de bouleversement, mais ça mérite étude, travail, voilà, et ça ne fait que débuter. En tout cas, de telles évolutions, de tels bouleversements en disent long, me semble-t-il, sur les changements non seulement objectifs, mais aussi subjectifs intervenus dans la société française. Et une première question, parmi d'autres, je ne fais que des esquisses ici, se trouve posée, me semble-t-il, quelle signification les personnes interrogées donnent-elles elles-mêmes aux réponses qu'elles fournissent, et notamment au fait de se dire classe moyenne? Et immédiatement, j'ai envie de dire, et de manière inséparable, en tout cas non indépendante, il y a une deuxième question qui surgit. Faut-il conclure à la disparition de toute notion d'opposition de classe dans une société qui serait enfin recentrée, apaisée? À débattre, je ne conclue pas, à débattre. Mais il nous semble, que voilà, cette question mérite en tout cas d'être posée. Deuxième observation. Il y a une très forte progression du sentiment de mal-vie, comme on dit. Là aussi, quelques chiffres. Et là aussi, je le dis, au point, cette progression est telle qu'on est peut-être, d'une certaine manière, dans un autre monde, mais je pense qu'après les chiffres que je vais donner, vous le comprendrez mieux. En 1966, 45% des gens interrogés disaient avoir l'impression de vivre mieux qu'avant, que ceux qui les avaient précédés, que la génération d'avant. En 2010, ils ne sont plus que 12% à avoir le même sentiment. En 1966, 28% des interrogés disaient vivre moins bien que ceux qui les avaient précédés. En 2010, ils sont 72%. Ça ressemble, je crois qu'on peut l'admettre, à un séisme. Et on note d'autre part que si sur la longue période il y a parfois des rémissions, puisque je me permets de le rappeler mais sans m'apesantir, on a une 20 ou 22 enquêtes sur la longue période, il y a parfois des rémissions, par exemple en 1982 avec le premier gouvernement Mauroy, c'est entre 2001 et 2010, c'est-à-dire donc ces 9 dernières années, que ce sentiment de mal-vie que je viens de dire bondit, puisqu'il passe de 44% en 2001 aux 72% pour 2010, dont j'ai parlé précédemment. Enfin, dernière remarque là-dessus, ces évolutions s'effectuent de façon quasi parallèle dans tous les groupes sociaux. Le moins bien que j'évoquais tout à l'heure, ce sentiment de vivre moins bien, passe de 35% à 63% chez les cadres et les professions intellectuelles supérieures, qui passe de 47% à 77% chez les employés, il passe de 51% à 74% chez les ouvriers, je le répète, sur la période 2001-2010. Et là aussi, et je conclurai là-dessus sur cette deuxième observation, trois questions au moins se trouvent posées, nous semble-t-il. Quel est le contenu vécu de ce sentiment de mal-vie? Première question. En fonction de quelle grille idéologique les individus lui donnent-ils sens? Enfin, troisième question, mais pas forcément la dernière, quelles conclusions en tirent-ils quant à leur choix politique? Alors on essaye d'y voir un peu plus clair avec peut-être une troisième observation. La poussée des inquiétudes sociales et économiques. Là aussi je commence par quelques chiffres. Le chômage inspire 73% de beaucoup d'inquiétudes aux gens interrogés. La baisse du pouvoir d'achat, 64%. Contre 52% en 2001. La puissance sans contrôle des marchés financiers internationaux inquiète à hauteur de 62% contre 49% en 2001. Et ces évolutions sont elles aussi repérées dans toutes les catégories sociales, comme pour ma précédente remarque, précédente observation. Et même, mais je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas le temps, même elles sont maximum, ça peut paraître surprenant mais c'est ainsi dans l'enquête, elles sont maximum chez les cadres et les professions intellectuelles. Quatrième observation, les inquiétudes liées à l'absence d'autorité, à l'insécurité et au risque d'être envahis par les étrangers ne gagnent pas du terrain. Et même, leur intensité baisse. C'est sans doute un peu intéressant, parce qu'au fond, on aurait pu penser le contraire. On aurait pu penser, par exemple, qu'avec la gravité de la crise, ces craintes auraient eu tendance à grimper. Or, ce n'est pas le cas, j'y insiste. Ainsi, l'inquiétude par rapport à insécurité et violence. En 2001, 76% des gens se déclarent très inquiets de ces questions. En 2010, ils sont encore très nombreux, mais ils ne sont plus que, enfin que, entre guillemets, que 55%. Sur la question n'est pas formulée exactement comme je vais le dire maintenant, mais c'est l'esprit, à propos de l'augmentation du nombre des étrangers en France, le beaucoup de craintes que ça inspirait en 2001 et s'élevait à 35% des personnes interrogées et il est tombé à 27% en juin 2010. Sur ce point, et parce que là encore je ne peux pas m'étendre évidemment, mais sur ce point, en 2010, ce qu'il faut retenir à cette étape, c'est que c'est bien le chômage qui suscite le plus d'inquiétude, c'est la première préoccupation et de loin. Quant à la crainte des étrangers, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, enfin j'ai donné quelques chiffres, mais elle est en queue de peloton. Ce qui fait dire, je me permets de les citer à Michelin et Simon, ces résultats ne conduisent nullement à minimiser la diffusion de ces craintes, ni surtout le potentiel de réactivation. Excusez-moi, le potentiel de réactivation dont témoignent les réponses, mais ils incitent à relativiser ce qui en est dit par tant de gens qui croient pouvoir déduire ce que pense le peuple à partir du temps d'antenne consacré à tel ou tel sujet par les journaux télévisés. Ils aident notamment à comprendre pour quelles raisons de fond des opérations comme le montage identité nationale ou l'expulsion discriminatoire des Roms n'ont connu dans l'opinion qu'un succès au mieux éphémère. Cinquième observation, il y a un nouveau et significatif recul de l'adhésion à l'idéologie libérale. Là aussi, très vite, quelques chiffres. La bourse, par exemple. Sa connotation négative passe de 29%, là on remonte un peu loin, en 1988, à 74% en 2010. Privatisation est jugée négativement par 36% des interrogés en 88, par 62% en 2010. Nationalisation, mais c'est un vaste débat que je ne propose pas d'ouvrir, hein, parce qu'il pourrait. Mais voilà. Mais je l'ouvre quand même. Oui, oui. Mais j'en dis pas plus parce que je ne suis pas sûr de moi.
Oui, oui.
Positif est jugé, le mot est jugé positivement par 37% des interrogés en 93, donc, et par 51% en 2010. Capitalisme. Est jugé négativement par 50% des interrogés en 88, par 64% en 2010. Là aussi, je cite rapidement, parce que je trouve que c'est intéressant, Michelin et Simon, qui nous disent, dans une enquête internationale réalisée pour le compte de la BBC dans l'été 2009, la France est de tous les pays comparables celui où l'on estime le plus que le capitalisme de libre-échange est fondamentalement dans l'erreur et qu'on a besoin d'un autre système économique. Cela dit, comme quoi rien n'est simple, les mots profit et libéralisme ne sont pas autant décriés qu'on pourrait le penser après ce que je viens de dire. Profit n'est rejeté qu'à 53%. Et libéralisme est jugé positivement à hauteur de 55%. Mais peut-être ces mots, question, et en particulier libéralisme, n'évoquent pas forcément pour nombre de gens la même chose que pour la minorité, nous en sommes, plus impliqués dans la réflexion et l'intervention économique et politique. Question. Sixième remarque, sixième observation, changer la société. À la question « Pensez-vous qu'il faut changer complètement la société ?» L'approbation est de 56% en 2010, elle était de 46% en 2007, il y a 3 ans. Seulement, voilà, on peut le faire, comment faire? Autre question, et on l'a posée de la manière suivante. Malgré la mondialisation et la crise, on peut tout de même améliorer les choses en France en prenant les mesures qui s'imposent. 89% des gens interrogés se déclarent d'accord. 89% des gens se déclarent d'accord avec cette proposition qui leur est faite, enfin cette question qui leur est posée. Alors, je répète la question, si vous l'avez pas entendu, c'est malgré la mondialisation et la crise, on peut tout de même améliorer les choses en France en prenant les mesures qui s'imposent. Voilà. Et à cette question, 89% des gens interrogés se disent d'accord. Voilà. Et parmi eux, 38% tout à fait d'accord. Ouais. Deux remarques encore. On a testé aussi la popularité de 3 mots, écologie, socialisme, communisme. Écologie est perçue positivement à 85%, socialisme à 56%, communisme à 18%. Sur ce dernier mot de communisme, ce que je veux dire, c'est que, d'abord, c'est un résultat à peu près égal à celui qui a été observé lors des précédentes enquêtes, mais il faut... Alors, je ne sais pas quelle conclusion tirer, mais je livre ce qu'on observe. 27% des 18-24 ans jugent positivement le mot. Voilà. Et curieusement, on pourrait s'attendre éventuellement au contraire, c'est chez les plus de 60 ou 65 ans que le mot est le plus rejeté.
Dévalorisé.
Dernière remarque. La crise du rapport aux politiques, au sens institutionnel du terme, atteint un niveau sans précédent. Il y a d'abord, je donne que deux exemples, un discrédit massif des responsables politiques. Depuis 1978, les gens sont interrogés sur le point de savoir dans quelle mesure les responsables politiques se préoccupent ou non de ce que pensent les gens comme eux. Et en 1978, ils étaient 15% à penser qu'ils ne se préoccupaient pas du tout de leurs problèmes. Ils sont 42% en 2010. En 2010, ceux qui ne font confiance ni à la droite ni à la gauche sont 69%, contre 48% il y a 3 ans. Voilà. Je conclue là-dessus. Je vous indique, parce que j'ai fait des choix, évidemment.
Une note d'espoir, c'est ça ?
Il y a du chemin à parcourir. J'ai fait les choix. Vous retrouverez tout ça sur le site de la Fondation lundi ou mardi, le temps qu'on l'installe. J'ai amené, mais j'en ai qu'une cinquantaine des dossiers, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis surtout, je l'ai dit tout à l'heure, Micha et Simon écriront une note dense, un bouquin. Vous pouvez d'ores et déjà en passer commande à la Fondation. Voilà.